Place publique.
La grève des femmes a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans les rues de Suisse vendredi dernier. Mais sur quoi va déboucher le mouvement? Le Conseil des États se penche cette semaine sur deux dossiers importants liés à la cause des femmes. Leur représentation dans les grandes entreprises et le congé paternité. Valérie Borioli-Sando de Travail Suisse sera en direct dans Place Publique. Le sexting, un phénomène qui prend de l'ampleur chez les jeunes. Une campagne de sensibilisation a été lancée par l'association Violence Que Faire. Alors que 43% des jeunes en Suisse ont reçu au moins une fois des images intimes sur leur téléphone portable ou leur ordinateur. L'Amérique se prépare déjà à vivre une nouvelle élection présidentielle. Donald Trump est entré en campagne hier en vue du scrutin de novembre 2020. Nous ferons le point sur les enjeux pour le président sortant et pour ses rivaux démocrates avec notre correspondant aux États-Unis, Claude Porcella, en direct de Washington.
Jusqu'à 19h, Place publique. François Comte.
À quoi va ressembler l'après 14 juin pour les femmes suisses? Des centaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dernier dans tout le pays à l'occasion de la grève des femmes. L'égalité au sens large entre femmes et hommes était au cœur des revendications. Le Conseil des États débat précisément cette semaine de deux points liés à cette question, la représentation féminine dans les grandes entreprises et le congé paternité. Alors comment la cause des femmes va-t-elle évoluer dans les futurs mois et par quels moyens? Nous allons tenter d'y répondre avec Valérie Borioli-Sando, responsable de la politique de l'égalité au syndicat Travail Suisse, qui se trouve en direct de notre studio, Palais Fédéral à Berne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, si vous êtes au Palais Fédéral, ce n'est pas un hasard, hein, puisque le Conseil des États a accepté, c'était cet après-midi, le principe de quota de 30% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et de 20% dans les directions, décision prise par 27 voix contre 13. C'est un score plus large que celui qui était attendu. C'est un premier effet de la grève des femmes, selon vous ?
Oui, sans doute, mais je dois vous reprendre, il ne s'agit absolument pas de quota qui a été décidé aujourd'hui, vraiment pas du tout.
C'est une représentation, minimale.
Non, il s'agit d'une valeur de référence.
Un seuil,
et en fait,
voilà.
Un seuil, voilà. Et si les entreprises concernées ne satisfont pas à ces seuils, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qu'elles doivent faire, c'est expliquer pourquoi elles n'ont pas atteint ces seuils. Donc, vous voyez, on est loin des quotas.
Alors, justement, vous l'avez dit, il n'y a pas de sanction, hein, finalement, si les entreprises ne respectent pas ces seuils qui ont été fixés. Dans le fond, est-ce que le Conseil des États... n'a pas pris un peu une décision qui lui coûte pas très cher en définitive?
Oui, c'est une décision. Enfin, la décision, elle était très attendue de toute façon, parce qu'après, effectivement, la grève des femmes féministes du 14 juin, il aurait été impensable que ce Conseil des États refuse d'adopter ces valeurs de référence pour les sociétés les plus grandes, hein, en Suisse, celles qui ont plus de 250 personnes, qui brassent des millions au niveau du chiffre d'affaires. Donc, on ne parle pas du tout des PME, hein, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Donc, vraiment, là, je pense que l'effet de la grève, il a été visible et on espère qu'il perdure, en tout cas jusqu'à demain, effectivement.
Oui, c'est un petit pas en avant. Un sénateur PDC, je crois, si je ne me trompe, vous me corrigerez peut-être, a repris la phrase de Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour l'égalité.
Oui. Oui, c'est un signe fort quand même qu'on n'accepte plus des équipes dirigeantes uniquement composées d'hommes. Et ça, je trouve que c'est un très bon signe. Et ça va donner aussi l'occasion d'avoir des modèles de femmes qui dirigent des entreprises, qui sont tout à fait capables, qui ont les compétences. Ça va créer un appel d'air, comme on a pu le constater dans le canton de Bâle-Ville, où la population a accepté, il y a 5 ans déjà, une valeur de 30% dans les instances dirigeantes des entreprises qui sont proches du canton. Et 5 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Il y a eu vraiment un appel d'air parce qu'on est à plus de 42% de représentation des femmes dans ces instances dirigeantes.
Alors l'autre dossier sur lequel va se pencher le Conseil des États demain, hein, jeudi, sera le congé paternité. L'initiative de votre syndicat Travail Suisse demande 20 jours alors qu'une commission du Conseil des États propose 10 jours. Est-ce que vous pourriez vous satisfaire d'une proposition de compromis?
on tient à ces 20 jours qui sont déjà un compromis, en fait, entre ceux qui souhaitent un congé parental et ceux qui voulaient rien du tout. On s'est dit, ben voilà, 20 jours. En fait, j'ai eu une remarque il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui est dans l'économie genevoise qui m'a dit, mais finalement, 10 jours, tout le monde l'a déjà. Donc, à quoi bon ? Et effectivement, on tient à ces 20 jours. Alors, on verra demain ce qu'il en est. Et il ne faut pas oublier non plus que le projet va être encore discuté au Conseil national. Donc, tant que toute la discussion et tous les débats ne sont pas terminés au niveau du Parlement, nous tenons à nos 20 jours de congé paternité.
Mais pour vous, ce n'est pas non plus une fin en soi, ce congé paternité. Vous réclamez plutôt un congé parental, hein. Les femmes socialistes ont même réclamé lundi un congé parental de 50 semaines, mais là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans la surenchère plutôt que dans la recherche d'un compromis ?
Non, on n'est pas du tout dans la surenchère. Si vous regardez les pays nordiques, par exemple la Norvège, connaît un congé parental qui inclut le congé de naissance de la mère, donc maternité, et le congé de naissance du père, donc paternité. Et ça dure 48 semaines. Donc, on n'est pas du tout dans la surenchère. On est simplement dans la vie moderne. C'est comme ça que les familles veulent maintenant pouvoir choisir leur modèle de famille. Alors, moi, je dis toujours, c'est un petit peu comme un Lego. Il faut poser les premières bases pour pouvoir construire. Et la première base à poser, c'est vraiment celle du congé paternité, parce que la naissance, c'est un moment très, très intense dans la vie des familles. Et les enfants ont besoin des pères et des mères dans un climat serein, serein, c'est vraiment le cas de le dire. Et cela engendre de la stabilité au sein des familles aussi. Donc ce congé paternité, c'est une fin en soi, mais ça n'est pas la dernière, dans le sens qu'on est bien conscient qu'à terme, il y a toutes sortes de mesures qui doivent être prises pour favoriser la conciliation, pour avoir enfin une véritable politique familiale, chose que nous n'avons pas en Suisse.
Alors, vous utilisez l'image du Lego, vous me permettrez peut-être d'en utiliser une qui a plus trait au rugby. Après cette grève des femmes, et au-delà de ces deux questions de la représentativité dans les entreprises et du congé paternité, comment est-ce que vous comptez transformer l'essai, hein, ce succès quand même assez, assez incroyable de cette mobilisation lors de la grève des femmes ?
Bon, ça fait des années que Travail Suisse et ses membres, parce que nous sommes une organisation fêtière, hein, je rappelle, on n'est pas un syndicat, fait des années qu'on a une politique en faveur de l'égalité, en faveur de la conciliation. Et il y a beaucoup de chantiers ouverts. Je pense notamment toujours à celui du financement des places de crèche qui se fait au niveau de la Confédération à coup de programmes limités dans le temps. Il est temps vraiment maintenant de pondre, de créer une loi cadre qui prévoit un financement public vraiment conséquent, de manière à ce que les parents aient aussi moins de coûts à leur charge. On est un des pays où les parents prennent le plus en charge les coûts de la crèche. Il faut aussi beaucoup regarder du côté des proches aidants. Et là, avec Travail Suisse, avec quatre autres grandes organisations au niveau national, nous avons créé une vingtaine d'autres encore qui nous ont rejoints. Nous avons créé la communauté d'intérêt des proches aidants au niveau national. Et là, vraiment, le travail commence. Il s'agit de reconnaître le travail qui est fait par les proches aidants et encore une fois d'aider ces proches aidants qui travaillent, 2 sur 3 travaillent, à concilier leur activité professionnelle et cette tâche incroyablement généreuse qu'ils réalisent au sein de leur famille.
Un tout dernier mot très rapidement. Cette décision qui a été prise par le Conseil des États aujourd'hui sur la représentativité des femmes dans les entreprises, elle peut augurer selon vous de recherche de compromis sur ces dossiers que vous venez d'évoquer ?
Pas de compromis, mais vraiment de vraies solutions, au-delà des effets de manche et des beaux discours, vraiment des solutions pragmatiques qui satisfont vraiment les personnes auxquelles elles sont destinées. Je veux parler des hommes, des femmes de ce pays, des familles et des personnes qui ont besoin d'aide.
Valérie Borioli-Sando, merci d'avoir été en direct dans Place Publique pour commenter cette actualité liée encore à la grève des femmes. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup et bonne soirée aussi.
Place publique.
Le sexting, un phénomène qui peut faire des ravages chez les jeunes, y compris en Suisse. Le sexting, c'est le fait d'échanger des photos ou des vidéos intimes par le biais d'Internet ou d'un téléphone portable. En Suisse, 43% des jeunes entre 11 et 19 ans ont déjà reçu au moins une fois des images intimes d'autres personnes sur leur téléphone portable ou leur ordinateur. Ils sont 11% à avoir déjà envoyé ce type de photos ou de vidéos. L'association Violence Que Faire a lancé récemment une campagne de sensibilisation contre les dérapages liés au sexting. streaming avec notamment un clip vidéo. Pour en parler, nous recevons direct par téléphone la coordinatrice de Violence Que Faire, Marion Labeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a décidé à lancer cette campagne ? Ce sont les chiffres que je viens de donner qui montrent que ce phénomène touche beaucoup de jeunes.
Alors effectivement, il y a les chiffres que vous avez mentionnés, il y a également les questions en fait des jeunes reçues directement sur le site violencequefaire.ch qui partagent donc des questions qui partagent leurs craintes que leurs photos ou leurs vidéos soient divulguées. Et enfin, il y a aussi le fait que finalement, on faisait le constat que peu de campagnes s'adressent spécifiquement aux jeunes hommes qui potentiellement peuvent être auteurs de ces violences.
Est-ce que votre association, finalement, elle rencontre souvent ce genre de problème, des jeunes qui vous appellent, qui vous demandent un conseil, et puis si vous avez un conseil précisément à leur donner dans ce genre de situation, lequel serait-il ?
Alors, l'association Violence Que Faire, en fait, reçoit des demandes de la part d'un public assez large, de tout âge, qui est confronté à la violence au sein du couple, donc pas uniquement de la part des jeunes. Mais la question plus spécifiquement du sexting et de ces dérapages, elle est plutôt ressortie, en fait, dans les questions des jeunes internautes et pas dans les questions des internautes plus âgés. Et parmi les jeunes en fait qui ont pu nous contacter, alors c'est pas par téléphone, mais c'est vraiment de manière anonyme et gratuite sur le site violencequefaire.ch. Il s'agissait par exemple de deux jeunes femmes qui s'inquiétaient de voir leurs photos diffusées plus loin, ou encore de situations où elles se faisaient menacer de divulgation après une rupture par exemple. Donc un conseil en tout cas pour répondre à votre question, c'est déjà de pas forcément céder s'il y a des pressions qui sont exercées pour donner des photos de soi dénudées, de bien réfléchir à ce que l'on souhaite, qu'il n'y a pas de d'obligation.
Parce qu'il faut le rappeler, dans ce genre de situation, ça peut provoquer vraiment des dégâts assez conséquents chez les victimes. Quel type de dégâts, par exemple ?
Alors, les dégâts, c'est surtout donc quand la confiance, elle est brisée, et puis que les photos qui ont été photos intimes de soi ou vidéos qui sont transmises plus loin sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça peut virer au harcèlement. Harcèlement de personnes tierces donc sur la victime, des insultes, c'est ce qu'on a en tout cas cherché à montrer dans le clip. Le clip qui s'intitule « Désamorçage », et puis des conséquences psychologiques et sociales qui peuvent être importantes, un sentiment de honte, un isolement, une mauvaise estime de soi, une culpabilité, et puis qui peuvent arriver à des situations beaucoup plus dramatiques au niveau social, où même la victime doit changer d'établissement scolaire pour ne plus être en contact avec les harceleurs.
Vous avez donc réalisé un clip vidéo, on l'a dit, de prévention, avec la participation de l'acteur suisse Noam Yaron, que nous accueillons également en direct. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous associer votre image à cette campagne ?
Alors, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. Je n'ai pas été directement, exposé à ce genre de problématique. Mais quand j'étais au gymnase, j'ai vraiment pu observer ça, en tant qu'ami. De la sœur, d'une de mes meilleures amies de l'époque qui, s'est vue exposer une photo d'elle dénudée. Et j'ai vu vraiment les ravages que ça pouvait avoir autant sur la personne concernée que son entourage. Et quand on m'a contacté pour parler de ce sujet-là à des jeunes et d'essayer de sensibiliser les gens à tout ce qui peut arriver, si une photo de nous venait à se faire diffuser, j' ai tout de suite accepté et mis, toutes mes forces pour gagner un petit peu de notoriété à ce problème qui est aujourd'hui omniprésent.
Oui, ça peut vraiment représenter une violence considérable pour les victimes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et d'ailleurs, dans le clip vidéo, la mise en scène est assez aussi percutante. Ça montre l'intervention d'une brigade spéciale dans une école pour appréhender un harceleur potentiel, un jeune qui aurait diffusé à ses amis des images de sa petite amie précisément. Pour vous, c'est nécessaire de passer par ce genre de mise en scène assez choc pour se faire comprendre du jeune public?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont difficiles à atteindre, que ce soit de manière publicitaire ou tout simplement pour voilà, marquer leurs esprits. Avec l'agence de production Main&Co, on a vraiment tenté de mettre en scène quelque chose qui va sensibiliser ben, tout d'abord les jeunes garçons, qui sont quand même, on va dire, les personnes, on va dire principalement, qui sont concernées par la diffusion des images. Bien sûr qu'il faut être deux et que les jeunes femmes sont invitées à pas forcément envoyer des photos d'elles si elles n'ont pas 100% confiance à la personne à qui elles les transmettent. Mais voilà, on a vraiment voulu illustrer ça via un film presque d'action, j'ai envie de dire, et de mettre en lumière les dégâts que ça peut avoir. Et tout simplement, voilà, bien sûr que dans la vraie vie, jamais une brigade comme celle qu'on a mise dans le film va débarquer pour chercher un élève qui a partagé ses photos. Mais c'était vraiment pour un but, voilà, on va dire, purement pour marquer les esprits. Et je pense qu'aujourd'hui, on a bien réussi notre challenge.
Pour toi, ce n'est qu'une photo. Pour elle, c'est une bombe. C'est une des phrases hein, qui conclut le clip. Marion Labo, l'idée, c'est de susciter une prise de conscience, mais aussi de rappeler que le sexting, en tout cas c'est des rapages, ça, c'est une pratique qui peut entraîner des poursuites pénales. Lesquelles ?
Alors effectivement, disons que les dérapages du sexting peuvent avoir des conséquences aussi au niveau pénal pour tout le monde, mais aussi pour en fait les victimes elles-mêmes, surtout si elles ont moins de 16 ans. Il y a un article, l'article 197 du code pénal qui peut poser, qui peut être problématique, puisque les photos de enfin, que cette jeune fille, en théorie, aurait pris d'elle-même si elle a moins de 16 ans, peuvent être considérées, en fait, comme de la pornographie infantile en cas de publication. Et donc, ça pourrait, en théorie, se retourner contre elle, s'il y a des poursuites, qui sont faites. Pour les auteurs, bien évidemment, qu'il y a aussi, des poursuites qui peuvent être enfin il peut y avoir des conséquences au niveau légal. Rien que le fait déjà de contraindre sa petite amie s'il y a une forme de contrainte pour qu'elle donne des photos ou des vidéos d'elle dénudée, ça pourrait être passible d'une peine selon l'article 181 du code pénal. Donc voilà, sans vouloir citer tous ces articles, ils sont aussi présents, enfin cités sur le site violencequefaire.ch pour celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresserait. Mais tout ça pour dire que voilà, le sexting, quand ça dérape dans des situations aussi voilà extrêmes, s'il y a des poursuites, ça peut se retourner aussi sur la victime qui aurait moins de 16 ans, et puis aussi évidemment pour celui qui diffuse et qui partage ce genre de contenu.
Alors le but, comme le dit le clip vidéo, c'est aussi de briser la chaîne du silence, de choisir le respect, autrement dit, d'inciter à dénoncer ce type de dérapage lorsqu'ils se produisent, lorsqu'on en est directement victime ou lorsqu'on a connaissance de quelqu'un qui pourrait en être victime. Noam Yaron, c'est un message qui est difficile à faire passer, celui-là auprès des jeunes, leur dire « si vous assistez à ça, il ne faut pas rester dans le silence ».
Alors, tout à fait, c'est tous les messages, on va dire, sociétals sont difficiles à faire passer. Il faut surtout pas, on va dire, mettre une épée de Damoclès sur les jeunes. Il faut vraiment montrer, on va dire, les dégâts que ça peut avoir et surtout réussir à donner une solution. Et Violence Que Faire est vraiment là pour ça. Sur leur site, il est très facile de justement prendre contact avec des professionnels qui vont répondre dans un délai plus ou moins court à leurs questions, de manière complètement anonyme aussi, s'ils le souhaitent. Donc, c'était vraiment ça aussi, on va dire, l'enjeu principal. Et puis, après, c'est vrai que quand on a des bonnes idées créatives et qu'on donne vraiment des solutions, pour moi, c'est un duo qui fonctionne bien et je pense qu'on peut voilà, être fier de ce qu'on a produit. Et j'espère que voilà, la vidéo va être vue par le plus de monde possible et voilà, offrir des vraies solutions aux personnes qui soit sont amenées à voir des images d'elles diffusées, soit des personnes qui tombent sur ces images et qui choisissent justement d'arrêter et de justement convaincre leurs camarades de ne pas diffuser ces images et justement d'arrêter la chaîne et de garder le respect.
Et ce qui peut être compliqué aussi, c'est que finalement, ce qui peut partir d'une sorte de jeu, entre guillemets, peut vraiment se retourner contre la personne qui a été prise en photo ou en vidéo dans ce type d'image, mais aussi parfois, Noam Yaron, faut le dire, il y a aussi, c'est aussi parfois une manière d'exercer une forme de vengeance après une rupture, par exemple.
Alors, tout à fait. Après, je pense que la vengeance n'est jamais une bonne solution. Sur le moment, c'est clair que bah, émotionnellement, il y a des choses qui se passent. On se sent aussi trahi, on se sent un peu délaissé. Et je pense que voilà, tout malaise a une fin. Il faut savoir prendre son temps. Et c'est vrai que voilà, en aucun cas, la diffusion d'images dénudées d'une personne va résoudre le problème. Je pense qu'une bonne discussion est vraiment à préconiser. Et après, bien sûr, que chacun, on va dire, gère son chagrin comme il peut. Mais voilà, en tout cas, on déconseille fortement de faire ça. Et voilà, dans le cas où ça venait à arriver, on espère que voilà, aussi vite, les jeunes qui vont voir ces images arriver seront assez matures et auront l'expérience nécessaire pour se dire que ça ne vaut pas la peine de les diffuser. Et justement, encore une fois, de respecter l'intimité de la personne et justement briser la chaîne.
Marion Labo, toute dernière question. Votre campagne insiste sur les dérapages hein, liés au sexting, pas sur le sexting en lui-même. Est-ce que ça veut dire que c'est un phénomène contre lequel, finalement, on ne peut pas lutter ?
Alors, c'est plutôt en fait qu'il ne s'agissait pas pour nous, à l'association Violence Que Faire, de porter un jugement de valeur sur la pratique du sexting. En soi, ce n'est pas tant le sexting qui est un problème, c'est plutôt lorsque la confiance est brisée. Et quand le sexting dérape, c'est là qu'il y a un problème. Et puis, voilà, être moralisateur et puis dire aux jeunes que le sexting, c'est mal, ce n'est pas ce que l'on souhaitait faire passer comme message. Puis on savait aussi que c'était contre-productif. Donc, on voulait ni promouvoir le sexting, ni dire qu'il faut pas du tout avoir cette pratique-là. Nous, on voulait surtout se focaliser sur la notion aussi de confiance qui doit être préservée au sein d'une relation amoureuse, mais aussi après, une fois que cette relation elle est terminée. Et puis voilà, surtout, on voulait se focaliser sur les dérapages, parce que c'est bien ça le problème et pas en soi la pratique du sexting.
Marion Labon, Noam Yaron, merci tous les deux d'avoir participé à Place Publique pour parler de cette problématique du sexting. Bonne soirée à vous deux.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Place Publique.
La fièvre électorale a déjà commencé à s'emparer des États-Unis. L'élection présidentielle se déroulera en novembre 2020, mais le débat est d'ores et déjà lancé. Donald Trump est officiellement entré en campagne pour sa réélection lors d'un grand meeting à Orlando, en Floride, c'était hier soir. Le président américain vise un second mandat alors que plus de 20 candidats démocrates se sont lancés dans la course pour l'affronter. Et pour parler des enjeux de cette campagne et de l'élection de novembre 2020, nous accueillons en direct par téléphone à Washington, Claude Porcella, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Claude, puisque ben, pour vous, c'est le jour, encore que même chez nous, le soleil est encore bien présent. Bonjour.
Bonjour François.
Alors un mot sur la forme avant d'aborder le fond. Un meeting à grand spectacle pour Donald Trump hier soir en Floride. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. La Floride, c'est un état clé, un état important.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un choix calculé, comme Trump l'a dit. La Floride est un peu ma seconde patrie, il a plusieurs propriétés, dont la célèbre Mar-a-Lago, la Maison Blanche d'hiver, mais ça n'est pas simplement pour des raisons sentimentales. La Floride est l'un des États qu'il doit remporter s'il veut être réélu. On se souvient du rôle crucial que cet État avait joué lors de l'élection de George Bush fils. Pour ce qui est de la forme, François, ce lancement de la campagne de Trump ressemblait plus à l'un de ces meetings politiques qu'il affectionne pour mobiliser ses troupes en utilisant un langage populiste qui excite son auditoire. Ça n'était certainement pas le discours unificateur dont a tellement besoin le pays.
Alors justement, sur le fond, Donald Trump, il a attaqué tout azimut ses adversaires démocrates. Il les a accusés de vouloir détruire le pays, le rêve américain. Il a aussi accusé les médias. Bref, Donald Trump a fait du Donald Trump.
Ah oui, il a été égal à lui-même, hein. Il n'a pas déçu son public. En fait, la première demi-heure a été consacrée, bizarrement, à ressasser ses vieux ressentiments contre Hillary Clinton, contre Barack Obama, contre les auteurs du rapport sur l'enquête russe, et bien sûr, les médias. Succès assuré. Comme au théâtre de marionnettes, quand Guignol bat le gendarme, tout le monde applaudit. Il a défini sa campagne comme une bataille entre le bien et le mal. Le mal, ce sont les démocrates qui, comme vous le disiez, veulent détruire le pays, le rêve américain, l'establishment, des élites arrogantes qui méprisent le petit peuple dont lui, Trump, se veut faussement le représentant et le champion.
Est-ce que ça signifie que Donald Trump, finalement, n'est pas capable de davantage présidentialiser son discours pour élargir peut-être son spectre électoral, parce qu'on rappelle que lors de la présidentielle de 2016, il n'avait pas été majoritaire en nombre de voix, il avait gagné au nombre de grands électeurs, mais est-ce qu'il n'est pas capable d'élargir son spectre électoral ou est-ce qu'il ne le veut pas, tout simplement ?
Bien, écoutez, je crois qu'il ne le veut pas, puisque à chacune de ses interventions, il se concentre uniquement sur sa base, les quelques 40% qui lui restent fidèles. Mais en ce qui concerne votre question, est-ce qu'avec le temps, il s'est présidentialisé ? Eh bien, la réponse est non. Et j'étais de ceux qui pensaient qu'il le pourrait. À ceux qui avaient critiqué Trump dès son élection, je disais, eh bien, écoutez, donnons-lui le bénéfice du doute, donnons-lui un peu de temps. Peut-être une fois installé dans le bureau ovale, il changera avec sa fonction. Et alors là, je me suis tout à fait trompé, tout autant trompé que j'avais prédit l'élection garantie d'Hillary Clinton. Mais au moins, là, je n'étais pas le seul. Mais une fois président, Donald Trump est resté Donald Trump, dirigeant l'Amérique à sa guise, ignorant les experts, chambardant les alliances, dédaignant les lois et se comportant plus comme un dictateur que comme le président d'une démocratie.
Alors depuis George Bush père, c'est en 1992, tous les présidents américains sortants ont été réélus. Alors avant de parler des candidats démocrates, mais qu'est-ce qui pourrait finalement empêcher Donald Trump de faire un second mandat ?
Eh bien, il espère bien sûr que le Trump Show va continuer de faire un bon score à l'audimat. Ce qu'ont noté les commentateurs, c'est qu'il n'y avait pas de proposition nouvelle dans son discours, mais une continuation de sa politique actuelle, anti-immigration, anti-avortement notamment, très peu sur la politique étrangère qui d'une façon générale n'intéresse pas le grand public. Mais il a surtout insisté beaucoup sur la bonne santé économique, et elle est indéniable, le bas taux de chômage, 3,6%, et cela donc peut l'aider. Mais ce qui pourrait entraîner des difficultés pour lui, c'est qu'il y a des signes d'un ralentissement de l'économie et d'une possible récession l'an prochain, ce qui pourrait évidemment lui retirer une carte majeure.
Donc pour vous, c'est vraiment cet argument économique qui sera déterminant dans la future campagne présidentielle ?
C'est difficile à dire. Vous savez, les Américains et d'une façon générale tous les électeurs du monde votent en fonction de leur portefeuille. Donc ils peuvent être progressistes, mais s'ils voient que le président en fonction leur assure un avenir meilleur, que leur situation économique s'est améliorée, ils votent évidemment pour le maintien de ce président, car en général, celui qui se représente a de meilleures chances qu'un nouveau venu. Mais évidemment, divers facteurs, dont certains peuvent être imprévisibles, pourraient empêcher sa réélection. Il est peu probable qu'il soit destitué, car il est protégé par la majorité républicaine au Sénat. Mais si la vingtaine d'enquêtes sur une possible obstruction à la justice dans l'affaire russe ou sur ses affaires privées produisait des révélations scandaleuses, cela pourrait ternir une image qui n'est déjà pas très bonne et rendrait sa réélection inacceptable à une majorité d'Américains.
Alors on va parler des démocrates, hein, des adversaires potentiels de Donald Trump. Donald Trump qui paraît en difficulté dans les sondages, des sondages récents qu'il donne perdant face à 5 candidats candidats démocrates, dont notamment l'ancien vice-président Joe Biden. C'est lui la meilleure carte des démocrates pour battre Donald Trump?
Oui, effectivement, pour le moment, il se classe en seconde position, en première position, veux-je dire, mais il a de gros problèmes, parce que pour lui, bien qu'il soit le mieux placé pour battre Trump, ses 23 rivaux lui en donneront-ils l'occasion? L'ancien vice-président n'est pas invulnérable, il traîne derrière lui certaines casseroles, il est aussi férocement attaqué par les progressistes qui le jugent trop centriste et poussent donc des candidats tels que Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Biden doit donc faire face à un difficile parcours du combattant avant de pouvoir obtenir la candidature de son parti.
Bernie Sanders, justement, le candidat malheureux hein, de la dernière primaire démocrate face à Hillary Clinton, lui aussi est en lice hein, pour les primaires démocrates. Il y a plus de 20 candidats hein, à l'heure actuelle du côté démocrate. Est-ce qu'il a une chance d'être désigné par son parti pour 2020?
Écoutez, pour le moment, elle se classe en seconde position, juste derrière Joe Biden, mais Elizabeth Warren est en train de réduire l'écart avec lui. Bernie propose un socialisme démocrate, un système que semble d'ailleurs favoriser les milléniaux, la jeune génération. Mais il est assez peu probable qu'une majorité d'Américains qui, dans le passé, ont toujours voté centriste, Trump ayant été une exception, accepte d'élire un socialiste. Et d'ailleurs, Trump l'a dit haut et clair hier soir, l'Amérique ne sera jamais un pays socialiste. Si Sanders ou même Warren sont investis, Trump aurait de bonnes chances d'être réélu.
Alors, en gros, Biden peut-être un peu trop à droite, Sanders peut-être un peu trop à gauche. Il faut vraiment un profil très particulier à vous entendre pour battre Donald Trump. Est-ce qu'un outsider peut l'emporter face à Donald Trump? Et si oui, lequel?
Oui, absolument. On a vu dans le passé des inconnus se révéler pendant une campagne comme Jimmy Carter, Bill Clinton ou Barack Obama. Pour le moment, les deux candidats, outre Biden, Sanders et Warren, qui grimpent dans les sondages, sont l'ancien ministre de la Justice de Californie, l'afro-américaine Kamala Harris, et le maire d'une petite ville de l'Indiana, Pete Buttigieg, 37 ans, qui est gay. Mais l'élection d'une femme noire et d'un homosexuel reste tout de même assez peu probable. Mais effectivement, après l'élection de Donald Trump, tout est encore possible.
Et tout ça va se décanter, hein, c'est encore long jusqu'à l'affrontement final.
Eh bien écoutez, on en aura une première idée la semaine prochaine, lorsque auront lieu les deux premiers débats au cours desquels les 24 candidats démocrates vont s'affronter. Et là, eh bien, chacun a sa chance de montrer qu'il est différent de l'autre, mais c'est là la première occasion pour les Américains de se faire une meilleure idée de ces 23 candidats qui briguent la Maison-Blanche, qui rêvent de remplacer Donald Trump, car beaucoup, il faut le dire, sont totalement inconnus sur la scène nationale.
Claude Porcella, notre correspondant aux États-Unis, merci d'avoir été en direct dans Place Publique.
Avec plaisir.
Merci et belle journée.